Flock, vous publiez aux éditions Helium un livre inattendu, un livre d'un nouveau genre, en tout cas dans votre bibliographie, Une vie exemplaire. Alors c'est un livre dans lequel vous donnez une série de conseils de vie, ou votre fille peut-être vous donne des conseils de vie.
Si j'ai fait ça, c'est vraiment par hasard, parce que s'il y a quelqu'un qui n'a pas le sens de la pédagogie, c'est moi. Et je crois même que je n'ai jamais fait le moindre livre en pensant à quelqu'un d'autre qu'à moi, enfin qu'à moi, pas ce que je voulais dire, ce que je voulais me dire à moi-même, vous voyez. Mais j'ai beau avoir une fille, plus deux filles de ma deuxième femme, de moi, ma femme actuelle, que j'ai un peu élevée, et que le sujet m'intéresse, mais elles ont plus le souvenir de quelqu'un qui crie beaucoup, qui ne veut pas partager son espace et son temps avec les enfants, plutôt que quelqu'un doué de pédagogie.
Pourtant, ici, il y a une série de recommandations. On ne peut pas dire qu'il s'agit de pédagogie du savoir-vivre, mais peut-être d'une pédagogie du savoir-vivre bien en tentant d'être heureux. C'est un livre de philosophe, en quelque sorte.
Oui, mais c'est comme M. Jourdain. Hein. Je fais ça sans le savoir. Du reste, si ça peut vous amuser, la seule personne, j'ai eu beaucoup de chance parce que il y a des réactions délicieuses. Vous savez, quand on fait un livre, on ne se rend pas compte de ce que ça va donner. Et la seule personne qui manquait un petit peu d'enthousiasme, c'était ma propre mère. Et au point qu'elle, voyant ma vieille mère qui a 82 ans, et voyant une copine à elle qui lisait le bouquin devant elle rire à toutes les pages, m'a rappelé, m'a dit, mais je comprends pas, je suis très gênée parce que je suis la seule qui ne réagit pas comme ça. Et puis tout d'un coup, elle a dit, mais c'est parce que je te connais depuis toujours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour moi.
Ah oui, ça c'est une réaction de mère, effectivement. Alors, y a une série d'images qui sont accompagnées de petites légendes courtes. Alors il y en a une ou l'autre que j'aimerais qu'on évoque ensemble. La première concerne le livre. Il y en a une qui s'intitule « Lire et relire » et on voit un papa et sa fille avec l'image du pirate de l'île au trésor, du livre qu'ils sont en train de lire. Alors « Lire et relire », c'est comme un viatique pour un enfant.
Oui, alors il y a « Lire et relire » et un peu plus loin d'ailleurs, il y a « Rire et sourire ». Et c'est assez drôle qu'il soit dans cette... On voit bien que c'est un équilibre presque poétique, vous voyez, parce qu'on pourrait les mettre... Enfin, lire et relire, on ne peut pas faire autrement que de les mettre dans ce sens-là, mais l'autre pourrait... Et moi, je crois simplement que c'est des choses qui me paraissent presque tomber sous le sens pour moi, vous voyez. Je ne peux même pas imaginer une existence sans livre. Je ne suis pas un moderne, je ne connais pas beaucoup les ordinateurs et tout ça. Et ce n'est pas contre-courant, ce n'est pas par réaction que je fais ça, vous voyez. C'est les choses auxquelles je crois. Je crois que finalement, je crois qu'un livre, c'est bien plus magique que tout le reste, vous voyez. Ça n'a pas besoin d'électricité, ça se met dans une poche, c'est complet, enfin, c'est absolument extraordinaire. Et je peux vous garantir d'une chose dont je suis absolument sûr, c'est que je le vois bien pour moi qui aime par exemple le cinéma, qui aime qui a aimé beaucoup aussi la peinture moderne et contemporaine. Toutes ces choses, ces univers-là, vous en faites le tour très rapidement. La connaissance du cinéma, elle est finie. Vous voyez, c'est pas les deux films tous les 10 ans aujourd'hui qui sont corrects, qui changent quelque chose. Alors que la musique, sans doute aussi, et le livre, c'est sans fin. C'est quelque chose dont on ne se lasse absolument jamais.
Ceci dit, on aurait pu mettre la phrase « lire et relire » dans l'autre sens aussi, puisque quand on relit, finalement, on découvre quelque chose de nouveau, souvent.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, et moi, vous voyez, quand vous faites quelque chose comme ça, la seule... j'ai rien fait d'autre que ce que j'avais envie de faire, mais j'allais pas m'amuser à mettre derrière la petite fille l'univers de, je sais pas, de Noël Coward, de Nancy Milford ou de Evelyn Waugh, qui sont beaucoup plus mes préférences, vous voyez. Mais là, c'était pour dire, il faut commencer par les classiques.
Alors, comment s'est passée la réalisation et le choix des images, de la mise en scène que vous faites? Vous êtes toujours en scène avec votre petite fille et parfois un petit lapin, une poupée qui est un peu comme le compagnon de certaines décisions de vie.
Oui, c'est pas une poupée, c'est un vrai lapin. Pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas beaucoup les gens qui ont de l'imagination. J'aime qu'on décale un peu la réalité. Mais tout ce qui est dedans est vrai, c'est ma vie. Ma fille avait un petit lapin et ce lapin, moi, qui aime les choses jolies, je n'aimais pas l'idée qu'il ait une cage, et donc j'ai trouvé une belle serre comme ça, vous voyez, et que j'ai fait doubler de morceaux de fer verticaux pour qu'il puisse pas s'échapper, vous voyez, et pour que, donc vous voyez, tout est comme ça. Le petit lapin est mort aussi, et ma fille était tellement désespérée quand je suis allé la chercher à l'école qu'il a fallu le remplacer tout de suite. Je ne suis pas allé à la campagne, vous voyez, mais c'est juste des petits décalages. Mais c'est, mais pour tout vous dire, le début de l'histoire, c'est que j'ai un ami qui, Fromental pour ne pas le nommer, avec qui j'avais fait autrefois un livre, deux livres d'ailleurs, et qui m'a dit je fais des livres pour enfants, et la maison d'édition, l'éditrice est juste à côté de chez toi, dans le 5e arrondissement de Paris. Et le lendemain, et quand je lui ai dit que toi, tu habitais aussi à côté d'elle, elle m'a dit, oh, ça serait merveilleux de faire un livre avec Floch. Alors le lendemain matin, j'ai poussé la porte et j'ai crié, who's the boss? Alors elle s'est présentée, j'ai dit, on va faire un livre. Voilà.
Ah, voilà. Ah, c'est une très belle histoire. Et vous saviez déjà que ça allait être ce livre-là, ou bien c'est en connivence avec elle?
Avec
the boss.
Oui, en fait, j'ai eu une première idée dont on m'a dit qu'elle n'était pas assez pour les enfants. Et après, on m'a proposé de faire un imagier. Et moi, j'ai dit non. Je ne vais pas vous faire un imagier de mon univers que j'ai proposé à d'autres éditeurs. Je veux faire quelque chose pour vous. Et remonter à la surface, un petit livre que j'avais vraiment déjà bien commencé à l'époque où j'étais dans mon premier mariage et à l'époque où ma fille avait cet âge-là. Vous voyez, et je m'étais dit d'ailleurs, voilà, en divorçant, j'ai perdu l'occasion de faire un livre. Tous mes livres très personnels, je mets le mot « vie » dedans, ma vie d'eux, une vie de rêve, et ici, une vie exemplaire. Et je me disais, c'est foutu, c'est du matériel bon à jeter à la poubelle. Et puis tout d'un coup, ça a remonté à la surface, et j'ai trouvé que l'idée que le père soit seul avec avait un caractère de modernité avec toutes ces histoires de famille recomposée ou de père et élevant seul et tout, et que ça donnait quelque chose justement qui ajoutait à ce petit décalage que je veux. Et puis surtout ce besoin que j'ai toujours dans mes histoires que j'écris, hein, aussi, parce qu'on croit toujours que c'est Rivière qui écrit mes histoires, mais non, c'est moi qui les écris. Et bien de non-dit, enfin d'understatement, c'est-à-dire qu'il y ait, un jour on me demandait où vous avez fait des progrès, j'ai dit entre les cases, vous voyez, il faut remplir là, parce que finalement c'est 48 pages une bande dessinée ou un livre comme ça, et donc il faut que ça soit sous-jacent.
Ici, le progrès, c'est aussi, pour reprendre votre expression, le progrès, c'est aussi entre la phrase, le texte, la formule, et puis le dessin qui est toujours en tout léger décalage par rapport à ce que vous dites, mais en le disant quand même.
Oui, bon, ça c'est... vous savez, encore une fois, c'est... est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule? Tout ça, c'est un... vous savez, j'ai fait ce livre en un mois. Donc c'est quand même très rapide. Je l'ai fait dans une joie totale. Je n'ai pas eu beaucoup de doutes. Et donc le temps de réflexion de qu'est-ce que j'y mets, tout ça, n'a pratiquement pas existé. Vous voyez, c'était pas dur à faire pour moi. Ça venait tout seul.
Et qu'est-ce qui est venu en premier lieu pour les dessins, pour les pages, c'est le dessin ou le texte? Ou la phrase, enfin.
Oui, mais j'aime bien que vous disiez le texte, parce que je reprenais notre ami de la librairie Candide, qui disait que c'était un livre d'illustration. Et je dis non, c'est pas un livre d'illustration. Un livre d'illustration, c'est un livre, vous l'ouvrez à n'importe quelle page, vous avez une illustration. Et un livre a un début et une fin. Et moi, le mien, il a un début et une fin. Et qui pourrait jamais me convaincre que quand il y a énormément de textes, c'est plus intelligent que quand il y en a très peu. En tout cas, moi je suis quelqu'un qui aime la littérature, mais qui essaye d'enlever le plus de mots possible. Et j'ai pas beaucoup d'admiration pour les pavés de Bernard-Henri Lévy ou d'autres de cet acabit.
Enlever toute la littérature, c'était le conseil qu'a donné Colette à Georges Simenon la première fois qu'il est venu lui présenter un manuscrit jeune écrivain tremblant.
Ah, très bien, très bien.
Alors, vous avez parlé de certains dessins, dont le dernier qui est très émouvant, où vous évoquez la mort du papa, et vous l'évoquez d'une manière qui est tellement, tellement attendrissante. C'est comme si vous vouliez terminer le livre sur une note qui est en même temps grave et pleine d'espoir.
Et bon, pourtant, mon éditrice m'a dit, les Américains ne voudront plus jamais du livre à cause de ça. Mais j'ai, vous savez, moi, j'ai 58 ans aujourd'hui. Je ne me sens pas du tout avoir 58 ans. Néanmoins, quand on me parle, par exemple, vous savez, de la crise de 40 ans, avoir une crise à 40 ans, c'est complètement idiot. À 40 ans, on est à la moitié de sa vie, on est en pleine forme. Mais 50 ans, vous commencez à entendre telle personne qui est morte. Mon père est mort à 64 ans. Telle personne morte à 70 ans. Vous dites, attendez, c'est les 20 ans qui viennent, là, s'ils passent aussi rapidement. Ça commence à vous travailler. Et si vous vous souvenez, mais j'en ai été surpris moi-même, parce qu'on fait ça un peu inconsciemment, mon livre Une vie de rêve finissait aussi par ma mort. C'est des choses qui sont dans le quartier.
Mais racontez-nous le dernier dessin, oui, puisqu'on est en radio, le dernier dessin, avec la petite fille qui est au téléphone avec son père, voilà, en ange.
Donc en fait, d'ailleurs, les gens font une jonction un petit peu bizarre, parce que je dis accorder sa confiance. Et pour dire cette idée, il y a le père, mais ça c'est au milieu du livre, prend son arc et va lancer sa flèche sur la, comme Guillaume Tell, sur la pomme qui est sur la tête de sa fille. Et à la fin du livre, l'avant-dernière image, on a le sens inverse, c'est accorder sa confiance d'eux, et c'est la fille qui va l'envoyer. Et la case d'après, on est dans un cimetière, la petite fille pleure sur la tombe sur la pierre tombale est écrit papa, et à côté d'ailleurs il y a lapin, parce que le petit lapin était mort un peu plus tôt, et les gens font l'enchaînement entre ça, mais moi je le fais pas vraiment. Ce qui m'intéresserait plus éventuellement, c'est le côté psychanalytique, tu es le père éventuellement, vous voyez, et comme je veux pas finir sur ça, qui est un crève-cœur, même ma fille, quand je lui ai montré, elle s'est mise à pleurer. La dernière image, quand on tourne, c'est croire au miracle, voilà. Et le texte, c'est le père est en ange, comme on avait vu d'ailleurs le petit lapin, le premier qui meurt en ange, mais il est revenu, et la petite fille est au téléphone, donnant la main à son père qui est en ange, et elle dit à une copine, je suppose, papa est revenu, là-bas il ne s'entendait avec personne. C'est bien ce qui risque de m'arriver à moi aussi.
Oui, enfin, j'en doute. Enfin, en tout cas, c'est une manière de tourner de mode enfantine aussi, quelque chose d'aussi grave que la mort, la disparition d'un proche, surtout d'un parent.
Oui, même si cette mécanique que vous évoquez, je n'en connais ni le début ni la fin. Je n'ai fait que ce que j'avais envie de faire, parce que je ne connais pas les recettes, en fait.
Alors, on va revenir à une autre image qui, moi, m'a beaucoup touché aussi, et qui est liée à la littérature. C'est celle où le papa et la petite fille sont en Don Quichotte et Sancho Panza. Et puis, maintenant, j'ai oublié quelle était la formule qui est « garder ses illusions ».
Garder ses illusions. Eh bien, je peux vous dire que si je n'avais pas fait ce dessin-là, je n'aurais sans doute pas fait même... Je n'aurais sans doute même pas fait le livre, vous voyez, parce que pour moi c'était indispensable. Et sachez bien une chose, c'est qu'il y a des images que j'ai dessinées pour moi et que je n'ai pas mises dedans. S'il y en avait une, je vous en donne une.
Ah oui, allez-y.
Il y avait un grand verre de vin, mais énorme, vous voyez, qui prenait la page. Le père était dedans, les pieds dans le reste du vin. Il y avait une échelle contre le verre. Il y avait la petite fille en bas qui disait descends maintenant. Non, enfin, elle disait rien, mais on comprenait qu'elle lui disait de descendre. Vous voyez, je me suis censuré un petit peu. Et donc, pour en revenir à garder ses illusions, pour moi, c'est fondamental. Alors, les vocations, puis que la petite fille devienne d'ailleurs à un autre endroit la mère, garder son âme d'enfant, et que le père devienne l'enfant. Mais là, que la petite fille devienne Sancho Panza, c'est très intéressant.
Oui, non, il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire sur la projection aussi que le père peut faire sur sa fille.
Vous avez vu qu'elle le casque que j'ai.
Je ne m'en souviens plus.
Ben, c'est un casque de Warden avec le W de mes histoires Blitz et compagnie. C'est un casque anglais.
Voilà.
Un casque anglais qui a un peu la forme simple de... voilà.
Oui, qui est un peu comme le plat à barbe d'ailleurs. Donc, j'avais vu le plat à barbe, moi je n'avais pas vu le casque. Alors, encore une double vignette cette fois-ci. Vous recommandez pour avoir une vie exemplaire d'aller à Londres et d'aller en Écosse de temps en temps. Alors, la réserve pour l'Écosse, elle vient d'où, là ? C'est un vieux règlement de compte ?
Non, c'est simplement parce que c'est plus loin. Et puis que je pense que ce n'est pas le même... ça ne se fait pas aussi facilement. Vous voyez, c'est moins... moi, j'habite Paris, c'est très facile d'aller à Londres, c'est un... Comment dire, c'est un rebond de culture naturelle, vous voyez. C'est, alors que pour aller en Écosse, il faut déjà dégager du temps. C'est presque un retour à la nature, vous voyez. Qu'est-ce qui est joli en Corse, c'est les ciels incroyables, c'est le golfe, la nature, enfin, vous voyez. Mais c'est quelque chose qu'on doit préparer plus. Non, ce qui m'a amusé, pour tout vous dire, pour ces deux cases-là, c'est qu'au début, j'avais mis d'abord Londres et puis l'Écosse. Et je n'en ai été satisfait que quand je les ai intervertis.
En ajoutant de temps en temps pour l'Écosse.
Et puis pour l'Angleterre aussi, c'est pareil, si j'avais fait que Londres comme ça, mais ma fille, à ce moment-là, prenait en anglais « How old is your cat ?»
Ah oui.
Alors, c'est délicieux. Vous voyez, vous comprenez mieux pourquoi ma mère n'y trouvait rien d'admirable.
Oui, je comprends votre maman, effectivement. Alors, on pourrait les passer tous en revue, mais on va laisser aux auditeurs le plaisir de découvrir, d'autant plus qu'ils ont une image radiophonique inédite grâce à cette interview, quand même. Alors, j'aimerais terminer en vous posant une question qui m'intrigue maintenant que je vous ai rencontré, qui est le fait de vous dessiner, de vous représenter. Est-ce que cela change quelque chose dans votre perception de vous-même ?
Alors...
comme un comédien qui jouerait son propre rôle, en quelque sorte, mais qui serait en même temps le personnage et ce qu'il est.
Non, moi, je dirais que c'est ma force et mes limites. Je suis quelqu'un qui est sur Terre, même enfant, se poser la question de quelle sera mon utopie personnelle. Je n'avais pas ces mots quand j'étais jeune, mais j'ai toujours voulu faire ça. Et à la limite, même, je suis en aucun cas un raconteur d'histoire. Vous voyez, je n'aime pas créer des personnages. Je suis trop... On pourrait dire égocentré, c'est pas la question, c'est simplement que je ne suis pas capable, je dois faire avec ça. Ça ne m'intéresse pas de le faire en biais, vous voyez, par des chemins de traverse, en créant tel personnage qui serait la résultante. Pour tout vous dire, même, je n'ai aussi peu d'admiration pour les romanciers comme ça que pour les acteurs qui veulent jouer plein de rôles. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Et d'ailleurs, je dis toujours que mes limites en dessin sont celles d'un acteur ou d'une actrice comme Marlène Dietrich, qui ne sait jouer que Marlène Dietrich, et je n'ai pas beaucoup d'admiration pour un Robert De Niro ou un autre qui sait jouer tous les rôles, vous voyez. Moi, je préfère les Lubitsch, les gens qui font toujours, qui tapent sur le même clou.
Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, Flocon, je vous remercie pour cet entretien. Alors, je rappelle le titre de ce livre, qui n'est pas un livre pour enfants, qui est un livre à mettre entre toutes les mains, parce que c'est un livre de texte et d'images, Une vie exemplaire, et c'est paru dans cette maison d'édition Helium, dont on sait maintenant que le siège social est à proximité de l'endroit où vous habitez, à Paris. Merci, Floc.
Merci.